Je suis un professeur de l'école classique, c'est-à-dire que j'utilise peu ce genre de matériel à l'école pour une simple raison, c'est que je préfère mettre les élèves au travail et que moi je travaille pas beaucoup. Et quand on fait un PowerPoint, en fin de compte, les élèves sont pas actifs, ils regardent le PowerPoint. Donc j'en fais pas très souvent finalement, et j'essaie d'en faire un, j'ai l'habitude d'en faire quand même, j'essaie d'en faire un et je suis parfois plus à l'aise à l'oral qu'avec un PowerPoint, donc vous allez être mes cobayes ce matin dans l'église. Avant de commencer à lire la parole, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, ta parole est la vérité. Nous avons tous besoin encore de grandir. De grandir, Seigneur, dans la connaissance de qui tu es, de laisser ta parole nous nourrir, pour que vraiment, Seigneur, se développe en nous. Cet homme, cette femme renouvelée que tu appelles depuis la croix, jusque dans la vie éternelle. Amen. La semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Pierre avait prêché sur la multiplication des pains. Et les textes d'aujourd'hui, c'est justement ce qui suit la multiplication des pains. Il y a deux textes, un qu'on connaît très bien. C'est le texte de la manne dans Exode 16, on peut l'afficher. Ce texte, vous le connaissez, c'est le texte où finalement le peuple est dans le désert, il murmure contre le Seigneur, il vient de sortir d'Égypte, que finalement ils regrettent déjà, alors qu'ils étaient esclaves. Ils regrettent déjà la nourriture qu'ils avaient en Égypte. Ce qui est intéressant, c'est de voir que tout de suite, on voit que le mot qui revient souvent dans ce texte, c'est que le peuple murmure contre Dieu. En général, quand on voit quelqu'un murmurer contre soi, a priori, on n'est pas très content. Moi, si, vous voyez, quand je fais cours en classe et je vois des élèves qui commencent à me dire je suis pas forcément très content et je pense que je prie une petite crise d'autorité. Ça se finirait pas forcément très bien pour les élèves qui murmurent. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir que Dieu écoute le murmure du peuple. Et il répond à leurs besoins. Il répond à leurs besoins, vous le savez, en leur donnant quoi ? Alors, des cailles, mais aussi cette fameuse nourriture, la manne, qui tous les jours est donnée. Il y a une seule condition, vous vous souvenez laquelle ? Ils prennent juste ce qu'il faut, ils ne peuvent pas la conserver pour le lendemain. Et en fin de compte, il marque, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Ce pain qui vient comme du ciel, donné pour nourriture. Évidemment, si on s'intéresse un peu à cela dans le détail, on s'aperçoit que Dieu est en train de dire à son peuple, chaque jour, vous allez avoir besoin de moi. Chaque jour, vous allez avoir besoin de dépendre de moi. Et c'est un peu un leitmotiv que j'essaierai de vous laisser ce matin, de nous laisser ce matin. Quel est le péché originel ? Quel est le péché qui est à la racine de tous les autres péchés ? C'est l'indépendance. C'est l'indépendance. Que dit, finalement, que fait Adam avec Ève ? Qu'est-ce qu'ils font ? Dieu a dit ça ? A-t-il vraiment dit ça ? Dit Satan ? Adam et Ève tombent dans le panneau et qu'est-ce qu'ils font ? Ils consomment un fruit que Dieu leur avait interdit, en gros, de consommer. Et ils répondent à cet appel que lance le malin, « Vous serez comme des dieux. Vous n'aurez pas besoin de Dieu pour juger de ce qui est bon, de ce qui est bien. Vous le ferez par vous-même. » Autrement dit, la clé de la chute, c'est le désir d'indépendance. Attention, je ne dis pas un désir d'indépendance humain. Vous savez, il est juste et bon. Dans la Bible, il marque un moment qu'il est bon que l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Il y a une indépendance qui est juste humainement. Mais là, on parle d'une indépendance spirituelle. Et finalement, la vraie maturité spirituelle, c'est la dépendance de Dieu. Pour guérir du péché d'indépendance, il faut devenir dépendant. Et si vous voulez savoir ce que c'est qu'un monde indépendant de Dieu, regardez la télévision. Lisez vos journaux. Regardez ce qui se passe autour de nous. Voilà ce qu'est un monde indépendant de Dieu. C'est un monde où l'homme est livré à lui-même. Il est livré à ses propres pulsions, à ses propres passions, à sa propre manière de comprendre le monde. Et évidemment, le monde ne tourne pas rond. Et ce peuple qui est sorti d'esclavage, il murmure. Parce que finalement, il a beau être sorti d'esclavage, il a beau déjà avoir vu des miracles. Quel miracle il a vu ? Pas les moindres, quand même. Bon, franchement, les mers rouges, ça devait être pas mal. Et pour autant, ils murmurent, ils regrettent déjà le temps où finalement Dieu ne se manifestait pas à eux, où ils étaient esclaves, mais au moins ils avaient une certaine sécurité. Mais Dieu a pris en charge ce peuple. Il veut les mener à la dépendance de lui, pour qu'ils puissent justement être libres. C'est ça la particularité, c'est que ce qui nous rend libres, c'est d'accepter de devenir dépendants de Dieu. Et cette nourriture leur est donnée et va leur permettre de vivre dans le désert jour après jour. On peut passer à la suite. Le texte qui fait suite à Exode 16, dans les textes du jour, c'est un texte magnifique, c'est dans Jean. Et c'est dans Jean où Jésus nous dit qu'il est le pain de vie. Ce texte, on pourrait le lire tellement il est magnifique. J'ai mis en noir, si vous voulez en rouge, un peu les quelques phrases sur lesquelles je voudrais m'attarder. Mais si on le lit ensemble, tellement il est beau, les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ses barques et allèrent à Capharnaüm à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé, la mère lui dit, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez ? Non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il vous dit, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Je suis ego aimé. Je suis, en hébreu, ayé, hacher, ayé. C'est comme ça que Moïse se présente, que Dieu se présente à Moïse. Je suis. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. À qui parle ici Jésus ? Il parle à des Juifs qui connaissent le récit qu'on a lu juste avant. Et Jésus reprend ce récit pour les faire aller plus loin. Moïse vous a donné du pain, mais ce n'est pas lui qui vous l'a donné. C'est déjà Dieu qui a donné ce pain quand vous étiez au désert. Mais moi, je suis le pain qui va vous donner la vie éternelle. Et j'aimerais avec vous réfléchir justement à cela. Et la question est la suivante. Avez-vous faim ce matin ? Avons-nous faim ce matin ? Avons-nous faim du vrai pain ? Parce que voyez-vous, on ne peut être rassasié que si on a faim. Plus j'avance en âge, plus je me rends compte que j'ai faim de Dieu. J'ai 56 ans, et j'ai encore plus faim de Dieu que lorsque j'avais 20 ans. Parce que plus j'avance en âge, plus je me rends compte que sans Dieu, je ne peux rien faire. Mais vraiment, et je ne dis pas ça parce que mon intelligence diminue, je ne dis pas ça parce que ma sagesse diminue, au contraire, c'est parce que ma sagesse augmente et que mon intelligence, entre guillemets, augmente, que je me rends compte de ça. J'ai besoin vitalement de Dieu. Je ne peux pas vivre sans lui, car 50 ans de vie m'ont montré l'incapacité que j'ai à me réaliser sans lui, dans tous les domaines de ma vie, affectif, relationnel, professionnel. Sans lui, je ne peux pas. Sans lui, toutes les possibilités qu'il m'a données, je n'arrive pas à les exprimer au mieux, je n'arrive pas à les donner au mieux pour les autres. Je ne suis pas ce que je suis vraiment appelé à être. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, on va passer à la suivante. La vraie question, c'est celle-ci. As-tu faim ? As-tu soif ? Et je me la pose d'abord à moi. Quand je préparais ce PowerPoint, je me disais, Étienne, as-tu faim ? As-tu soif ? Encore. Aujourd'hui. Je sais que dans mon cœur, la réponse est oui. J'ai encore faim. J'ai encore soif. Autrement, je ne serais pas là ce matin. J'ai encore faim. J'ai encore soif. On continue. As-tu faim ? As-tu soif ? Alors, le contexte. La faim justifie les moyens. Et ce n'est pas une faute d'orthographe. On continue. Pourquoi je mets ça ? Si vous lisez le texte de Jean 6, ce qui est intéressant, c'est que juste avant ce texte, Jésus a multiplié des pains pour 5000 hommes. Vous imaginez une foule qui vient de voir un tel miracle. Aujourd'hui, s'il y avait BFM TV qui était là, je pense qu'on aurait en boucle, vous voyez, 24 sur 24, le flash info, un homme nourrit 5000 personnes avec quelques pains et quelques poissons. Et évidemment, ça ferait le scoop, ça ferait le buzz, comme on dit. Et ce serait évident que ça attirerait sans doute encore plus de personnes qui viendraient sur place aujourd'hui qu'à l'époque, vu les moyens de communication. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que tout de suite après, Jésus il disparaît. Il ne reste pas sur place. Pourquoi ? C'est déjà un miracle étonnant. Il pourrait en profiter pour que les foules viennent encore à lui et prêcher encore plus. Non. Parce que Jésus veut toujours nous faire aller plus loin. Quelle est notre vraie fin ? On y va ? Il nous faut partir à sa recherche, motivé par le fait d'avoir été physiquement rassasié. Le fait que déjà ces gens ont été physiquement rassasiés, ça va les mettre en route. Comment ? Il a fait ce miracle-là, il n'est plus là. Pourquoi il a disparu ? Mais est-ce qu'il ne peut pas nous donner quelque chose de plus ? Comme si le signe que Jésus faisait, c'était uniquement pour réveiller notre vraie faim. Je m'explique. Je fréquente depuis très longtemps, vous le savez, des milieux pentecôtistes, des milieux charismatiques. Ce qui me frappe toujours dans ces milieux-là, c'est que parfois certains frères et sœurs en restent au miracle. Ils ne vont pas plus loin. Comme si on consommait du surnaturel tout le temps. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est un des travers que l'on voit aujourd'hui. Ce que je vous dis là, ce n'est pas un jugement. C'est un constat qui me fait mal. Des travers que je vois aujourd'hui dans beaucoup d'églises qui se disent évangéliques, charismatiques, c'est l'évangile de la prospérité. C'est-à-dire, venez à Dieu et vous serez bénis matériellement. Moi, quand je dis les béatitudes, c'est pas ce que je vois. Heureux les pauvres. Paul dit, soyez sobres. Santé, sobriété, ça c'est la règle chrétienne. Autrement dit, si Dieu fait des miracles, si Jésus fait des miracles pendant 3 ans, c'est pour mener les gens où ? À la prospérité dans ce monde ? Non, c'est pour les mener à la croix. Pour qu'ils comprennent ce qui se passe à la croix. Jésus ne donne pas le salut à la multiplication des pains. Jésus ne donne pas le salut pendant les 3 ans où il fait des miracles et des signes. Jésus donne le salut lorsqu'il est tout seul à la croix et que tous les disciples ont fui. Parce qu'ils n'ont pas encore compris ce qui se jouait. Tous ces signes-là sont faits pour réveiller en nous une seule question. Mais qui est cet homme ? Pourrait-il répondre à mes besoins profonds ? Parce que voyez-vous, je le crois, pour passer à la suivante, c'est le son spirituel qu'on voit dans l'Évangile. Jésus désire qu'on le recherche pour aller plus loin. Il nous attire à lui pour notre salut. Et notre salut, ce n'est pas une fin physique, c'est une fin spirituelle. Alors évidemment, vous connaissez l'armée du salut. C'est quoi le slogan de l'armée du salut ? Soupe, savon, salut. Mais ils ont que c'est évident que quelqu'un qui n'a pas à manger physiquement, si vous parlez de Jésus-Christ, je ne suis pas convaincu qu'il va vous écouter. Ventre affamé n'a pas d'oreille. Mais c'est une réalité humaine, ça. Vous savez, nous ici, on est des lentilles. Hein. Moi, je mange ma faim tous les jours. Vous aussi, je pense. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Et c'est évident qu'il y a beaucoup d'églises dans les pays pauvres dont la première réalité, c'est de nourrir les gens. De leur donner minimum vital, matériel. Et ensuite, on est crédible pour aller plus loin avec eux. Ça paraît logique. Mais Jésus, finalement, il nous attire à lui parce que nous avons en nous une véritable faim spirituelle. Je crois vraiment, après autant d'années passées avec les élèves, dont la plupart sont dans des familles athées, que tous les hommes, toutes les femmes, n'importe quel homme, n'importe quelle femme, a en lui un vide spirituel que seul Jésus peut combler. Et s'il s'écoute un jour, ce vide, il le rencontre. Mais où aller le remplir ? Vers qui aller pour le remplir ? Jésus, il va à la rencontre des foules, il nourrit physiquement pour réveiller en elle ce désir que est-ce que ce ne serait pas lui l'homme qui peut combler notre soif profonde, notre faim profonde. Évidemment, il faut avoir cette faim réveillée pour le chercher. On y va ? Que nous promet Jésus ? Matthieu 7. Quand j'étais jeune, on m'apprenait à retenir par cœur des versets bibliques. Matthieu 7:7. Cherchez et vous trouverez. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Autrement dit, si un homme, une femme se met en route pour répondre à des questions profondes en lui, à des questions existentielles, il trouvera. C'est une promesse de Dieu. Encore faut-il qu'il se mette en route. Et parfois dans l'Église, on arrête. On s'est converti, on a rencontré Jésus, on s'est fait baptiser, tout va bien, je suis arrivé. C'est que le départ. C'est que le départ. C'est que le début. La porte est ouverte, tu la passes. Maintenant, il y a toute une vie à construire en toi. Comme dit l'apôtre Paul, il faut que Christ grandisse en nous. Lisez l'apôtre Paul. Vous le connaissez sans doute. Lisez tous les épîtres dans l'ordre chronologique. De Thessaloniciens à Romains. Vous verrez comment cet homme a laissé grandir Christ en lui. Parce qu'on voit mûrir dans les épîtres. Il mûrit dans une connaissance de plus en plus intime. À un point tel que l'épître aux Romains est une des épîtres les plus profondes. Quand vous prenez les autres au départ, elles sont aussi profondes. Mais Romains, il y a une espèce de profondeur spirituelle. Pourquoi ? Parce que Paul est à la fin de sa vie. Il a plus de 30 ans de rituel avec Jésus. Et c'est lui qui a appris une chose. C'est quand je suis faible que je suis fort. C'est bon de voir que dans la Bible, on a ces exemples d'hommes et de femmes spirituels qui ont laissé Dieu grandir en eux. Parce que Paul a toujours eu soif de Dieu. A toujours eu faim de Dieu. Il ne s'est jamais arrêté en route. S'il y a bien quelqu'un qui a couru la course, c'est Paul. D'ailleurs, il devait être assez dérangeant dans les églises parce que pour stimuler une église, il n'y avait pas mieux qu'inviter l'apôtre Paul. Vous pourrez croire que là, ça déménageait. Mais il avait raison. Vous savez, quand on traduit les béatitudes, nous, on traduit par « heureux les pauvres, heureux les doux ». Vous savez quel est le vrai sens du mot grec ? C'est « en marche ».« En marche ». ».« En avant ». ».« Ne reste pas sur place ».« Va », l'appel d'Abraham. « Quitte ton père et ta mère, quitte ton pays, va ». Va en avant. Si tu cherches, tu trouveras. Si tu cherches, tu te trouveras en moi. Tu sauras qui tu es vraiment et qui est vraiment l'appel sur ta vie. Et pourquoi Dieu a désiré que tu existes. Tu n'es pas le fils du hasard et de la nécessité. Tu n'es pas la fille du hasard et de la nécessité. Tu es la fille et le fils d'un désir paternel. Dieu a voulu que tu vives et que ta vie soit réussie. On continue. As-tu faim, as-tu soif ? Notre vraie faim, notre vraie soif, à l'école du salut par grâce. Pourquoi ? On y va, excuse-moi. La multiplication des pains, c'était un signe matériel pour stimuler notre vrai besoin spirituel. Notre vrai besoin spirituel, seul Dieu peut le remplir. On continue. Et si vous lisez votre Bible, il y a un appel qui retentit dans toute la Bible. Et ce qui est impressionnant, c'est celui qui exprime le mieux, c'est le prophète Ésaïe. Vous connaissez Ésaïe 55 ? Vous tous qui avez soif, venez. Et Apocalypse 22, l'esprit et l'épouse disent, viens, que celui qui a soif. As-tu soif ? As-tu faim ? Dieu ne répondra que si tu as conscience que tu as besoin de lui et si tu te mets en route. Celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui a faim, qu'il vienne. Je suis toujours frappé par le fait que ceux qui ont un ministère d'évangéliste, souvent, ils terminent leur prédication par un appel. Est-ce que c'est juste ? Évidemment. Venez. Non, pas à lui. Venez à celui dont j'ai parlé. C'est un ministère particulier, le ministère d'évangéliste. Ce n'est pas un ministère de prédicateur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça débouche très souvent, j'en ai vu quelques-uns, ça débouche très souvent sur un appel. Pourquoi ? Parce qu'ils ont cette grâce de susciter en nous la faim et la soif, de la réveiller. L'avenir est à ceux qui ont vraiment faim et soif. C'est ce que dit Jésus. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Vous savez, quelqu'un qui a faim ? Vous avez dit à quelqu'un qui a vraiment faim ? Je suis allé une fois, enfin, plusieurs fois en Afrique. Une fois, j'ai vécu une expérience redoutable. On passait du Burkina Faso au Niger. Le Burkina Faso, c'est un pays pauvre, mais c'est un pays où règne, en tout cas à l'époque, je dirais, une certaine autosuffisance. Je n'ai jamais vu quelqu'un mendier dans la rue au Burkina Faso. C'est un pays pauvre, hein, mais il y a une certaine suffisance. Il faut savoir qu'il y a à peu près 40% de chrétiens dans ce pays, ce n'était pas neutre. Il y a beaucoup d'œuvres chrétiennes, justement, africaines, hein, qui aident les gens. Et je n'ai jamais vu personne mendier vraiment au Burkina Faso. Au Niger, c'était complètement différent. Il y avait plein de mendiants. Et on passe la frontière. Il y avait dans notre, on était dans un minibus qui appartenait à une mission chrétienne. On passe la frontière et on doit s'arrêter pour montrer des papiers, etc. Et on avait préparé des sandwichs, vous savez, pour pouvoir manger. Et puis on sort, on commence à manger des sandwichs. On voit alors plein de gamins qui courent vers nous. Parce que je pense que les sandwichs comme les autres, ils n'en avaient jamais vu. C'était une simple baguette, vous voyez, avec un peu de laitue dedans, un peu de tomate qu'on avait acheté et un peu de poulet. Un truc tout simple. Il y avait un jeune avec moi, qui est plus jeune que moi, qui était là. Et quand il a vu le regard de ses enfants, il a tellement été interpellé qu'il leur a donné le sandwich. Ils se sont battus pour le manger. On n'avait jamais vu ça. Quand quelqu'un a vraiment faim, ça se voit. Est-ce que j'ai vraiment faim de Dieu comme ça? Est-ce que j'ai vraiment faim et soif du salut comme ça? Est-ce que j'ai vraiment faim et soif d'être sauvé, d'être guéri de ce qu'il y a de plus douloureux en moi? Ce qu'il y a de plus douloureux en moi, ce n'est pas forcément que la guérison physique. Vous savez que le péché, en fin de compte, c'est une maladie. Pourquoi c'est une maladie? Ça mène toujours à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et vous savez qu'en grec, je le dis souvent, le mot sauveur, c'est le même mot que médecin. Sozo en grec, c'est guérir. Et sauver, c'est la même chose. Pour nos frères chrétiens d'Irak et de Syrie, là, vous savez, les chrétiens dont on parle aujourd'hui pas assez à la télévision, mais qui sont massacrés, pour eux, Jésus, c'est le divin médecin. Il vient nous guérir du péché, qui est une maladie spirituelle. On continue. Or, c'est la grâce de Dieu qui suscite en nous le vouloir et le faire. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Mais c'est la grâce de Dieu, continue, qui suscite en nous la conscience de la faim et de la soif du salut, sa nécessité vitale. Aucun homme, aucune femme ne peut se mettre en mouvement vers Dieu si Dieu n'a pas déjà travaillé son cœur pour lui faire prendre conscience qu'il a faim et qu'il a soif. Vous savez, quand Jésus dit, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Depuis que la croix a été élevée dans l'histoire de l'univers, il y a en chaque homme, en chaque femme, la possibilité d'une prise de conscience qu'il a faim et qu'il a soif. Il peut alors rencontrer Dieu parce que la croix a été dressée. Et ça, c'est l'œuvre de la grâce. J'aime beaucoup, vous savez, les vieux chants qu'on chante dans nos églises. Hein. Le salut pour tous, le salut par grâce. Le fait de vouloir désirer être sauvé, c'est une grâce. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui n'ont pas conscience de cela? Mais quand ils en prennent conscience, où cela les mène-t-il obligatoirement? À la croix. C'est le seul lieu où nous pouvons être guéris du péché. On continue. Alors, comment Dieu s'y prend pour éveiller en nous cette faim et cette soif? Eh bien, je pense que, en tout cas, je peux parler pour moi, ce qui m'a mis en route vers Dieu quand j'étais jeune, c'est la prise de conscience que j'étais un pécheur. J'ai fait l'évangélisation quand j'étais plus jeune dans les rues avec un homme que vous connaissez, Christophe Salage, qui est venu ici plusieurs fois. On était étudiants au GBU. Alors, c'était pas le feu à l'époque, c'était les GBU. C'est exactement la même chose, en gros. On prenait nos guitares, puis on allait chanter dans le campus. Hein, on chantait, on évangélisait. Moi, je chantais tous les soirs dans les restos U, avec Gérard Brion, avec Christophe, etc. On annonçait l'évangile. Et puis, je me souviens, Christophe, c'était déjà... Il avait déjà tout ça dans son cœur. Chaque fois qu'on se mettait en prière, avant de commencer à chanter, il disait « Seigneur, Seigneur, révèle-leur leur péché. Révèle-leur leur péché. Révèle-leur leur péché. » C'était la seule clé pour qu'ils se mettent en route. Quand je suis malade, je vais voir le médecin, si je sais que je suis malade. La grâce de Dieu, c'est de nous révéler notre état de pécheur. C'est aussi une leçon spirituelle, frères et sœurs. Parce que jusqu'à la fin de notre vie, nous serons des pécheurs. Si aujourd'hui dans ta vie, un péché t'est révélé, c'est une grâce. Parce que tu prends conscience alors que tu es pécheur et tu peux aller demander la guérison au médecin. Mais si tu ne sais pas que tu es malade, tu ne le demanderas pas. quand Dieu pointe le doigt par l'Esprit Saint sur un péché, il nous le révèle. Quand notre conscience nous fait comprendre que nous sommes en train de pécher, c'est une grâce de Dieu pour que nous puissions lui demander de nous en guérir et de nous en délivrer. Je continue. Parfois, ce n'est pas forcément la conscience d'un péché. Mais ça, je le vois avec certains de mes élèves qui viennent me voir à la fin des cours, je me rends compte qu'ils ont des questions existentielles profondes. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Pourquoi est-ce que je suis sur Terre? Quel sens ça a, ce que je vis? Pourquoi mes parents sont séparés? Pourquoi ils m'ont laissé seul? Pourquoi si, pourquoi ça? Des questions essentielles. Et quand elles surgissent, c'est aussi là une occasion par laquelle l'Esprit Saint peut venir pour faire prendre conscience d'un besoin et pour qu'on aille vers lui. Mais souvent là, c'est important que l'Église soit disponible. Vous vous souvenez de Philippe et le nuque éthiopien? Qu'est-ce qui s'est passé? Cet eunuque, il avait plein de questions. Alors, évidemment, Dieu transporte Philippe juste à côté de lui. On est bien d'accord, ça ne se passe pas souvent comme ça, il faut reconnaître. Mais, au-delà de, je dirais, l'événement lui-même, qu'est-ce que ça signifie? Il fallait quelqu'un pour l'éclairer. Et pour non pas lui donner toutes les réponses, mais le guider vers celui qui peut donner les réponses. Et je pense que lorsque vous faites le café dehors, bien souvent, Pierre en témoigne, bien souvent, en fin de compte, on n'est pas là pour donner toutes les réponses, pour accompagner la question des gens et leur témoigner de qui on a rencontré et qui a pu répondre que nous on se posait. C'est encore une grâce de Dieu quand ces questions-là sont suscitées. Je continue. Et ça, c'est plus difficile à entendre, ou peut-être c'est plus difficile à saisir. Mais parfois, c'est aussi des circonstances très difficiles et éprouvantes qui sont l'occasion de que s'éveillons-nous une soif, une faim spirituelle. Je pense que dans les beaucoup pourraient témoigner qu'au travers d'épreuves terribles, Dieu s'est manifesté d'une manière exceptionnelle. Non pas parce qu'il a des épreuves. Je ne pense pas pouvoir dire en vérité que Dieu permet les épreuves terribles. Mais Dieu les utilise pour notre bien. Il en est capable si on lui fait confiance et si on se remet entre ses mains. Et il y a des hommes et des femmes qui rencontrent des épreuves terribles. Et là aussi, l'Église peut être témoin de qui est celui qui peut répondre et qui peut accompagner ces souffrances. Je continue. Du coup, on peut oser alors dire, nous savons que tu restes, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Beaucoup d'hommes et de femmes qui vivent une situation extrêmement difficile ne savent pas encore qu'ils sont aimés de Dieu. Et pour autant, Dieu les appelle en Jésus-Christ au salut. Ils sont appelés selon son dessein. Et tout peut concourir à leur bien. C'est ça la grâce de Dieu. Il entend nos murmures, il entend nos récriminations, comme au désert. Il peut nous nourrir chaque jour de la manne. Mais quelle est cette manne aujourd'hui? On passe à la suite. Cette manne aujourd'hui, c'est qui? C'est Jésus. Et j'ai envie de vous parler de la diète éthique de l'homme renouvelé. J'aime bien le mot diète éthique en deux termes, parce que souvent la diète éthique, on ne l'écrit pas comme ça. D'accord ? Et ce n'est pas un jeu de mots non plus. Il y a une vraie diète, il y a un vrai régime alimentaire spirituel qui est une éthique pour nous. C'est-à-dire, une éthique, c'est ce qui nous permet de nous comporter bien, ce qui nous permet de vivre moralement bien. Cette diète éthique, c'est quoi ? C'est le fait que Jésus dit qu'il est le pain de vie, qu'il est la nourriture céleste qui vient du ciel. Et ça, vous savez, dans le texte qu'on a lu de Jean 6, je pourrais aller plus loin, je vois que déjà le temps passe, je ne pourrais pas être trop long, mais en gros, dans Jean 6, si vous continuez, Jésus dit, je suis le pain de vie. Et celui qui mange ma chair et qui boit mon sang aura la vie. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la moitié des gens qui s'en vont. Pourquoi? Parce que ce n'était pas recevable, ce n'était pas compréhensible qu'il fallait manger Jésus pour être sauvé. Pourquoi Jésus dit-il qu'il est le pain de vie? Parce que finalement, on va passer à la suite, il nous faut une nourriture céleste pour que grandisse en nous l'homme nouveau. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu as conscience, Étienne, est-ce que tu as conscience que tu es appelé à une destinée céleste? Et que si notre destinée elle est céleste, ce n'est pas une nourriture terrestre qui peut nous amener à cette destinée céleste. Nous avons besoin du pain qui vient du ciel. Et c'est ce que dit Paul, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et comment Christ peut-il vivre en moi? Ben, Christ va me donner sa vie. Or, si on prend ça comme une image parlante, moi je suis prof de biologie, comment je peux vivre tous les jours sans me nourrir? Pour que Christ grandisse en moi, pour que je devienne comme Christ, il faut que je me nourrisse de Christ. On continue? Comment nous nourrir alors? Si je m'arrête là, je vous demanderai. Comment se nourrir? Comment nourrir en nous l'homme nouveau, la femme nouvelle que Dieu désire que nous soyons? Mais la recette, elle est assez simple. Et on la connaît. On a parfois un peu de mal à la mettre en pratique. On y va? La vraie fin, c'est la dépendance de Dieu qui nous guérit. Pourquoi? C'est pour nous guérir du péché d'indépendance. Donc chaque jour, ça paraît des règles toutes simples. Lire la parole. Prier. Cet été à Gagnères, dans la convention qu'on anime avec quelques-uns, un naufrage rappelait une chose étonnante. Il disait, si le matin, dès que je me lève, ma première préoccupation, ce n'est pas de lire la parole, je serai préoccupé par un tas d'autres choses durant toute ma journée. Mais si dès le matin, ma première préoccupation, c'est de penser à Dieu, ça va orienter ma journée complètement différemment. Je dis que ce n'est pas une question d'heure, je ne passerai pas 4 heures en prière, c'est une question de priorité. Et il disait même avec humour, je sais aussi quand ma femme n'a pas vécu son temps de prière avec Dieu en début de journée. Ça ne se passe pas très bien entre nous, ou pas de la même manière. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis les priorités dans le bon ordre. Donc vous comprenez, frères et sœurs, ce n'est pas une question de durée ou de quantité. C'est une question de qualité. Je ne sais pas si vous avez cette grâce-là. Je le dis comme un exemple, je ne dis pas parce que je suis meilleur que d'autres. Mais très souvent, quand je me lève le matin, j'ai un chant dans mon cœur. Je ne sais pas si ça vous arrive. J'ai un chant chrétien dans mon cœur. Et si je laisse ce chant monter en moi, si je le chante, tout naturellement, ça me porte à lire la parole. Mais si dès le départ, je pense aller voir mon compte en banque sur Internet ou voir mes mails, je vais tout de suite être détourné par autre chose. Quelle est ma priorité? Quelle est ma première préoccupation? Lire la parole, prier, communier avec les frères et sœurs. Parce que je ne suis pas seul non plus dans cette recherche. Pourquoi je viens à l'église finalement le dimanche? J'ai quand même d'autres jours dans la semaine. C'est parce que j'ai besoin de cette communion pour continuer à chercher avec mes frères et sœurs. M'alimenter pour le reste de la semaine. Communier au pain et au sang. Alors là, ça pourrait être toute une étude qu'on ne va pas faire. Mais moi, je suis toujours heureux que dans une église, on ait à la fois la prédication et la Sainte Cène. Il faut les deux. Parce que Jésus a quand même dit que son corps est vraiment une nourriture, son vin est vraiment un breuvage. Ne discutons pas théologiquement parlant, la manière dont les chrétiens se sont divisés par rapport à ça, ce n'est pas le problème. On se rend bien compte que par la foi, on peut se dire qu'on a besoin de Jésus tous les jours et qu'on a besoin de son sacrifice pour être sauvé. Et bien sûr, comment nous nourrir? Pratiquer les œuvres de justice. C'est quoi pratiquer les œuvres de justice? C'est faire ce pourquoi Dieu t'a appelé à être. Moi, pratiquer une œuvre de justice, c'est être un bon professeur. Dieu m'a appelé à être prof. Être un bon professeur, c'est pratiquer une œuvre de justice. Je suis fait pour ça. Pierre-Élie, mon gamin, il court très très vite. Quand il court, on voit le plaisir qu'il a. Dieu l'a fait pour courir. Et si un jour il court pour Dieu, il pratiquera une œuvre de justice. Vous connaissez Eric Liddell, le film Les chariots de feu? C'est incroyable cet évangéliste. Vous savez qu'il est mort en camp de concentration, tué par les Japonais. C'est un homme étonnant. Il est parti en Chine, évangélisé en Chine, et comme il a voulu vraiment aider les Chinois, il s'est laissé arrêter par les Japonais, il a été tué par eux. Et il est mort avec les Chinois. Il est mort avec le peuple avec lequel il annonçait Jésus-Christ. Cet homme, dans le film, on le voit courir un moment, il dit « Quand je cours, je ressens le plaisir de Dieu, parce qu'il m'a créé comme ça. » Mais qu'est-ce qu'il faisait avec ses courses? À la fin de chaque course, il a lancé l'évangile. C'était une œuvre de justice. Il est fait pour courir. Il courait, puis il prêchait l'évangile quand il gagnait une course. Il y avait plein de gens qui venaient l'écouter. Tout ça, frères et sœurs, la clé, elle est là. C'est rechercher l'intimité avec Jésus, se nourrir de sa présence. J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi. Dans ma détresse immense, que ferais-je sans toi ? Vous savez, on a beaucoup de chevaux qui sont beaucoup de chants magnifiques. Hein. Je suis le premier à dire que je les aime. Mais je trouve que les chants de la génération précédente avaient parfois une profondeur spirituelle qu'on ne retrouve pas forcément dans les nouveaux chants. Chants qui sont plutôt des chants d'adoration et de louange. Là, c'est des chants de profonde demande. J'ai soif de ta présence. Amazing Grace. J'ai soif. C'est tous ces chants-là, très profonds. Ces hommes et ces femmes avaient conscience qu'il fallait vivre l'intimité avec Jésus. Mon frère, ma sœur, es-tu un intime ? Es-tu une intime de Jésus-Christ ? C'est ça la question. Et moi, je m'aperçois aujourd'hui que j'ai besoin de cette intimité. Si je ne vis pas cette intimité avec Jésus au quotidien, ma femme le voit, mon fils le voit en premier. C'est ceux qui vivent avec moi tous les jours. Je pense qu'après, mes élèves vont le voir aussi. Mes collègues de travail vont le voir aussi. Vous savez, c'est un peu comme un violoniste qui disait, c'est un des plus grands violonistes du monde, qui disait, quand je ne joue pas du violon pendant une journée, je l'entends. Quand je ne joue pas du violon pendant une semaine, le public m'entend. Et lui, il joue du violon 12 heures par jour pour s'entraîner, tout le temps. Si je ne cultive pas l'intimité avec Jésus, mes proches vont le voir. Et puis tous les cercles auxquels je participe vont le voir. Je ne rayonnerai plus de cette présence du Christ en moi. Alors, allons-y. Dernière parole, toujours dans Jean. Vous savez que Jean, c'est un évangile étonnant. Vous savez sans doute que c'est l'évangile qui a été écrit le plus tardivement. C'est le dernier évangile. On pense 90 après Jésus-Christ. Et ce qui est impressionnant, c'est que qui a écrit l'évangile de Jean ? C'est le disciple que Jésus aimait. L'évangile de Jean, c'est l'évangile de l'intimité. C'est l'évangile de l'intimité. C'est l'évangile du disciple bien-aimé. Celui qui pose sa tête sur l'épaule de Jésus au moment de la Sainte Cène. C'est l'évangile de l'intimité. Celui qui demeure en moi, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous sommes là pour nous encourager à dépendre de Dieu, à grandir pour notre salut. Et j'ose le croire, pour le salut du monde, parce que Christ a besoin de nous pour que le salut soit visible dans le monde. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour tout ce qu'elle ouvre, qu'elle éveille en nous. Merci pour toutes celles et ceux qui découvrent qu'ils ont faim et soif de toi, qu'ils ont besoin de toi. Je te demande la grâce, Seigneur, que nous ne cessions d'avoir besoin de toi, que ton Esprit Saint ne cesse d'éveiller en nous cette faim et cette soif de te laisser grandir en nous, pour que nous puissions être pleinement dans ta main, des hommes et des femmes qui portent du fruit pour ta gloire. Amen.